Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le Lisbon Council, son président, Paul O'Fiennes, et sa directrice exécutive, Anne Mettler, pour cette invitation. Chacun et chacune d'entre vous, en tant que député européen, en tant que responsable politique, patron de PME, représentant d'associations professionnelles, journaliste, chacun et chacune d'entre vous a tous les jours l'occasion de constater que l'économie européenne reste fragilisée, parfois à cause de la mauvaise gestion des problèmes par les autorités. Dans ce contexte, qui reste bien sombre pour les citoyens et les entreprises d'Europe, que faire pour relever le défi posé par la crise? Ne rien faire? Sûrement pas, alors que le reste du monde bouge et progresse. Faire peur, en plaidant pour des solutions protectionnistes et pour le repli national, les enjeux sont de taille. Je ne crois pas au remède miracle des populistes, qui veulent monter les Européens les uns contre les autres. Je ne partage pas leur état d'esprit. Je le dis clairement, le chacun pour soi et le chacun chez soi ne nous mèneront nulle part. Face aux puissances de demain, aux États-continents, que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, chaque pays européen pris isolément, même le plus fort d'entre eux, ne fera pas le poids. Il faut en terminer avec le mauvais esprit. La solution à nos problèmes ne passe pas par moins d'Europe, mais au contraire par plus d'Europe. Cela ne veut pas dire que nous devons nous contenter d'exercer plus de compétences au niveau européen, sans rien changer à l'Europe telle qu'elle est. Au contraire, nous devons construire une nouvelle Europe, plus intégrée et plus forte, mais aussi plus participative, plus sociale et mieux armée pour agir en faveur de la stabilité et de la croissance. Mesdames et messieurs, le marché unique peut être un puissant vecteur de croissance et d'emploi, à condition de le mettre à jour et de tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas encore assez bien, comme par exemple les années de mauvaise gestion des finances publiques dans certains pays. C'est l'objectif de l'acte pour le marché unique que nous avons lancé avec une douzaine de mes collègues en avril 2011. Il s'agit d'actionner de manière systématique tous les leviers de croissance du marché unique pour poser les bases d'une nouvelle croissance adaptée aux défis économiques, technologiques et sociaux du XXIe siècle. Des 12 actions clés de l'acte pour le marché unique, 3 me viennent à l'esprit. Le brevet unitaire européen, le cadre européen pour les fonds d'entrepreneuriat social et la modernisation du cadre applicable au marché public. Elles ont toutes déjà été proposées par la Commission. Il est maintenant indispensable qu'elles soient adoptées sans attendre par le Parlement européen et par le Conseil. Face à la crise qui persiste, nous n'avons pas de temps à perdre. Les patrons s'inquiètent de la gestion de la dette et ils ont raison. C'est pour cela que nous avons décidé de poursuivre notre recherche méthodique et exhaustive des leviers de croissance disponibles dans le marché unique. Ainsi, la semaine dernière, nous avons proposé un acte pour le marché unique 2 avec 12 nouvelles actions clés choisies pour leur impact rapide sur la croissance et l'emploi dans 4 domaines prioritaires. Les réseaux européens de transport et d'énergie, la mobilité des citoyens et des entreprises, l'économie numérique et la cohésion sociale. À côté de nombreuses mesures en faveur des citoyens, les 2 volets de l'acte pour le marché unique accordent une priorité générale aux PME. Les PME sont un puissant réservoir d'innovation et un enjeu majeur de l'économie européenne. Elles sont aussi à l'origine de 85% de la croissance nette de l'emploi dans la période récente. Pourtant, trop peu de PME sont aujourd'hui de véritables acteurs du marché unique. Nous voulons les y encourager, en particulier avec mon collègue Antonio Tajani, en construisant un marché unique à leur image, source d'une croissance plus durable, plus innovante et plus inclusive. Permettez-moi de reprendre brièvement ces trois points. Tout d'abord, nous voulons mettre le marché unique au service d'une croissance durable. La crise financière nous a montré où la logique d'investissement court-termiste pouvait nous mener. Dans le cadre de l'acte pour le marché unique 2, nous avons proposé des dispositions pour encourager l'investissement à long terme, y compris en faveur du financement des projets d'entreprises privées. Par ailleurs, pour inscrire leurs projets dans la durée, les entreprises et les citoyens européens doivent pouvoir s'appuyer sur des réseaux modernes et performants. Sous l'impulsion de Günther Oettinger et de Slim Kallas, nous voulons donner un coup d'accélérateur à l'intégration des réseaux européens d'énergie et de transport, avec notamment l'objectif de réaliser enfin le ciel unique européen. Dans le cadre de cette gestion, il s'agit d'essayer de produire des rendements positifs en minimisant les risques de perte. Le deuxième point, nous voulons libérer le potentiel d'innovation du marché unique. Cela passe notamment par un encouragement au capital risque, qui ne représente que 2% des besoins de financement des PME en Europe, contre 14% aux États-Unis. Le passeport européen pour les fonds de capital risque est un grand défi solidaire que nous avons proposé. Il devrait permettre à ces fonds de lever du capital auprès d'investisseurs situés dans toute l'Europe sur la base d'un enregistrement unique réalisé dans leur pays d'établissement. Nous voulons aussi aider les PME à protéger leurs propriétés intellectuelles, par exemple grâce au brevet unitaire européen, qui pourrait diviser par 7 le coût de protection de l'innovation en Europe. Plus généralement, il est temps de construire un véritable marché unique numérique. Sous l'impulsion de Nelly Kroes, nous encourageons l'investissement dans les réseaux à haut débit. Nous voulons que la gestion d'actifs des PME soit stimulée. Parallèlement, je travaille avec Joachim Almunia à améliorer l'efficacité et la concurrence entre les services électroniques de paiement. L'Internet est un espace stratégique dont l'importance dépasse les seuls enjeux techniques et technologiques. Malheureusement, aujourd'hui, 35% des internautes renoncent à acheter en ligne à cause de doutes sur les méthodes de paiement. Nous allons changer cela. Enfin, nous devons réussir le défi de la transition vers l'administration électronique qui rend un meilleur service aux usagers à moindre coût. Pour cela, j'ai par exemple proposé de généraliser la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, ce qui pourrait représenter une économie d'un milliard d'euros par an à l'échelle de l'Union européenne. Troisième et dernier point, nous devons faire du marché unique un vecteur de cohésion sociale et d'emploi. Il n'y a d'ailleurs pas, à mes yeux, de performance économique durable sans cohésion sociale. Cela nécessite de donner aux entreprises sociales la place qu'elles méritent, notamment en augmentant leur visibilité et en créant un cadre européen pour les fonds qui investissent dans ces entreprises. Nous voulons aussi permettre à tous les citoyens européens d'avoir accès un compte bancaire de base qui est devenu une condition de participation à la vie économique et sociale. Et nous prenons des initiatives pour mettre le marché unique au service de l'emploi. C'est l'autre enjeu de notre groupe, et plus spécialement de mon collègue Laszlo Andor, qui travaille sur une refonte du portail Eures pour en faire un véritable outil de placement et du recrutement transfrontière. Nous avons également proposé d'améliorer la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui est une condition pour faire de la libre circulation des travailleurs un droit concret pour les Européens. Je suis convaincu qu'il s'agit avant tout de trouver des solutions pragmatiques, en particulier pour certaines professions, comme les infirmiers et les notaires. Par ailleurs, la carte professionnelle européenne que nous avons proposée simplifiera et accélérera les procédures de reconnaissance. L'enjeu n'est pas seulement de mettre en place des discussions qui sont déjà en cours, mais il est clair qu'elles doivent mener à une simplification tangible et à une baisse des coûts. Toutes les initiatives que je viens de citer sont très concrètes. Elles ont le potentiel d'aider les PME européennes, comme d'ailleurs les citoyens, consommateurs et travailleurs, à mieux saisir les opportunités offertes par le marché unique. Mais la route est encore longue. D'abord, comme je l'ai déjà dit, il est essentiel que ces initiatives soient rapidement adoptées dans le cadre légal par le Parlement et le Conseil. Ensuite, les règles du marché unique, si pertinentes soient-elles, ne serviront à rien si elles ne sont pas mises en œuvre efficacement sur le terrain. Si l'Europe veut garder ou retrouver sa légitimité aux yeux des citoyens, elle doit tenir ses promesses. Mesdames et messieurs, est-ce à dire que le marché unique sera absolument parfait lorsque toutes nos propositions seront entrées en vigueur? Sans doute pas. De nouveaux modèles économiques, technologiques et sociaux continueront d'émerger et de susciter de nouvelles attentes de la part des citoyens et des entreprises. Nous devons sans cesse rester en éveil, soutenir l'esprit d'équipe et continuer à adapter le marché unique aux réalités européennes. Et puis le marché unique ne fera pas tout. Il est simplement et fondamentalement la base de l'économie européenne. Si cette base est solide et non plus fracturée, alors toutes les initiatives privées et publiques, locales, nationales et européennes seront plus efficaces. Et en particulier les initiatives qui visent à réussir en Europe la troisième révolution industrielle, celle de la production décentralisée de l'énergie et de la mise en réseau qu'appelle de ses voeux Jeremy Rifkin. Cela doit être considéré comme un défi lancé à nos gouvernements. Pour tout cela, il est fondamental que les utilisateurs et les acteurs du marché unique puissent donner leur avis, porter leur esprit critique sur les changements proposés. C'est pourquoi j'invite chacun et chacune d'entre vous à participer activement aux événements de la semaine du marché unique qui se tiendra dans toute l'Europe du 15 au 20 octobre et qui débutera lundi prochain par un grand événement organisé au Parlement européen en présence de Jacques Delors et de José Manuel Barroso. Je vous remercie pour votre attention.